les tristes cires qui barbotent ensemble des pauvres vins.
Così ci va via l'influenza.
Ciao a tutti, ciao ai nostri telespettatori. Questa sera noi ci vediamo lassù in alto, quindi ogni tanto si potranno guardare in alto.
Siamo in cielo.
La volonté du peuple. Avec cela, qu'on s'en soucie de la volonté du peuple. Quelque chose comme le mugissement
d'un
bœuf flairant la patoire.
Your mom said there was a plane driving over.
Yes.
Flying over in
needs no.
Tutti neri da 55.000 a 73.000 spettatori.
Filmag, le magazine quotidien du Festival international du documentaire à Marseille, enregistré en public au cinéma Les Variétés et diffusé à 18h sur les ondes de D3-8. Quand la relation cinématographique s'instaure entre l'ouvrier et l'ouvrière, militant et militante, et la machine cinéma, on passe du monde du travail à un monde du travail décalé, qui serait le travail du jeu. Chaque personne filmée sait qu'elle est dans un jeu. Ce n'est pas un jeu de la performance, mais un jeu où la sanction n'est au fond que conviviale. C'est une complicité avec le spectateur. Ces quelques mots du cinéaste Jean-Louis Comolli en introduction de ce magazine où il sera beaucoup question de travail, du travail de filmer et des enjeux qui justifient de filmer le travail. Comolli, mais aussi Chris Marker, Paul Carpitard, René Vautier, les groupes Medvedkin, une génération de cinéastes militants qui ont transporté la caméra du studio à l'usine. Aujourd'hui, comment les réalisateurs documentent l'histoire sociale contemporaine? C'est ce qu'on va aborder avec les invités présents sur ce plateau. Bai Boudan, tout d'abord, réalisateur de Kwangong Sushie, autrement dit en français, les mineurs. On accueille aussi Gilles Leport, Maciek Madraki et Michal Madraki, réalisateurs de Pratsa Machine, le travail des machines. Et puis on accueille aussi Jérémy Gravaya, réalisateur de Les Hommes Debout. Le Filmag, ce sont aussi des chroniques, le film Impossible d'Anne Barbet par Pascal, un papier sur le film Tres Semanas Después de José Luis Torres Leiva par Pierre, une impro au sax par Guillaume sur le film Julien de Gaël Lépingle, un micro-trottoir de Juliette en sortie d'une projection du travail des machines, un reportage autour de l'écran Les Sentiers par Célia, et tout de suite, pour commencer, Jean-Marc, tu as vu le film Palms de Arthur Aristakissian. Je crois que c'est un film qui était présenté dans le cadre de l'écran Anthropofolie.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le film Palms, premier film d'Arthur Aristakissian. L'écran Anthropofolie, pour faire bref, c'est une étude par les marges des comportements et rapports humains et qu'on va trouver décliné sous des films, mais aussi des expositions. Et ce film Palms, eh bien, je pourrais dire que j'ai dormi avec, puisque c'est le dernier film que j'ai vu hier soir assez tard dans la soirée et qui m'a hanté jusqu'à ce matin. Je ne savais pas bien quel mot mettre dessus et puis c'est en train d'émerger doucement. Arthur Aristakissian nous l'a présenté comme un rosaire. Un rosaire, c'est un chapelet dont on égrène comme ça les perles pour prier. Et puis il nous l'a présenté en espérant que chaque perle puisse polir nos yeux. C'est une introduction comme ça enlevée, poétique et mystique. Et effectivement, le film est à cette image-là. Palme, c'est une prière. Une prière faite à un fils qui n'est pas encore né. Un fils à venir, une prière en 10 chapitres et 140 minutes de noir et blanc, un noir et blanc usé, crépitant, un noir et blanc qui a été un film qui a été tourné entre 90 et 94. Et c'est un film de sortie d'école, de l'école de Moscou, dont sont sortis des auteurs comme Tarkovsky, Sokourov, Parajanov, mais encore Abderrahmane Sissako, qui est président de la compétition internationale sur ce 21e FID. C'est en Moldavie que ça se passe, en Moldavie comme ailleurs. On est auprès des plus démunis. C'est un endroit sans gomina, sans crème, sans mascara, sans parfum. Et c'est avec ceux qui n'ont pas d'yeux pour voir, pas de mains pour toucher, pas de jambes pour se mouvoir, que Arthur Aristakissian nous convie de séjourner, puisque c'est d'un séjour qu'il s'agit, une immersion, une tentative de dénuement, une tentative de... de se dépouiller de tous nos apparats, de toutes nos envies, nos désirs, nos projections, nos probables participations à une société, à un système. C'est cette prière qu'il fait à son enfant, ne t'y frotte pas, ou apprends à passer à travers. C'est une prière aussi pour essayer de se porter entre vivants, on a un geste fraternel. C'est un film où il n'y a pas de son in, si ce n'est une voix, la voix de l'auteur, qui se déroule comme ça pendant 540 minutes. Et donc, on a envie de garder des mots. Il en reste très peu, en fait, à la fin, qui sont encore en train de reposer dans les cerveaux de la poignée de spectateurs qui étaient là hier soir. Et parmi ceux-là, il y a ces mots qui disent que qui que ce soit, même un malade, si on lui fait 1500 baisers, on peut le soigner. Et je trouve que l'introduction de ce feed a été placée sous la figure du baiser. Je trouvais ça, j'en retrouvais une rime dans ce film. L'image d'Arthur Aristakissian est dans le cloaque. Elle se déroule lentement et c'est finalement pour nous une sorte d'expérience mystique. C'est une expérience une expérience sacrée et on va pouvoir retrouver ce film en présence de son auteur, projeté dimanche 11 à 19h15 au cinéma Les Variétés, et il sera là après pour disons converser avec nous. Mais je vous invite vraiment vivement à aller voir ce film, parce qu'on se pose souvent les questions de filmer la misère, de l'esthétique de la misère qui a fasciné de nombreux cinéastes, et là il s'agit bien d'embrasser la misère.
Merci Jean-Marc pour cette chronique. Alors on va commencer ce filmag évidemment consacré au travail. On va le commencer par le travail au noir de la mine, au noir du charbon, avec Les Mineurs, un film de Bai Budan. Ni hao.
Ni hao.
Prenez vos micros. Bai Budan est accompagné de Chen Yang qui va traduire cet entretien. Alors, dans ce film, Bai Budan, vous montrez ce que les autorités de votre pays, la Chine, ne veulent pas que l'on voit, c'est-à-dire les conditions de travail épouvantables des mineurs dans les mines de Batong, dans la province de Shanxi. Ce film a été tourné clandestinement, et je voudrais demander à Bai Budan quel risque il a pris pour pouvoir tourner ce film.
Alors, bonjour tout le monde. Je suis content de venir.
Chen Yang qui traduit les propos à Bai Budan. Okay.
En fait, j'ai eu beaucoup de difficultés pendant le tournage parce qu'il concerne un sujet tellement sensible en Chine. Et j'ai essayé de rencontrer des gens, mais parfois c'est pas possible. Même ça sera dangereux pour des ouvriers, je m'interroge, même pour moi-même. En fait, parce que qu'il concerne un sujet sensible.
Est-ce que vous pourriez demander à Bai Budan si à un moment il a été tenté d'arrêter le tournage ?
En fait, je ne suis jamais arrêté par quelqu'un, même les policiers, mais il faut que je fasse attention à moi-même. En fait, c'est la caméra souvent cachée dans le sac et tout. Okay.
Alors, dans ce film, Les Mineurs, on voit très peu d'images dans la mine. Bai Budan filme les ouvriers dans leur logement, dans leur baraquement. Est-ce que c'est un choix de la part de Bai Budan, ou est-ce que c'est parce qu'il a été vraiment très difficile d'emmener la caméra, de la faire descendre dans la mine?
Okay.
Est-ce qu'on peut peut-être entendre la réponse de Bai?
Okay.
Donc, c'était pas possible de descendre à la mine, filmer des ouvriers en train de travailler. Même là-bas, la lumière est tellement noire, je peux pas de bien filmer. En fait, j'ai pris la conscience de filmer les gens qui habitent dans les petits appartements, envisager vraiment leur situation de vie, leur travail quotidien.
Alors, qui sont finalement ces ouvriers ? On les voit très nombreux venir des quatre coins de la Chine pour travailler dans ces mines et risquer leur peau, risquer leur vie chaque jour. Qu'est-ce qui les motive à venir travailler dans ces lieux ? Bai Boudan.
有很多从四面八方各地来到这个地方工作的人，然后是什么样的一种原因呢，造成他们哪怕冒着生命的危险也要来到这些地方去工作呢？这个还是因为就是在有相当一部分的还处于他的社会所处还处于一个相对特别贫困的一个环境，所以就是他们明白就是说。
En fait, il y a énormément de ouvriers. Ils ont travaillé là, dans la mine. Ils ont viennent un peu partout de la Chine, de chacune province. Il y a un but, c'est que gagner de l'argent. Oui, aussi, ce sont des gens pauvres qui n'ont pas eu bonne éducation, donc ils ne peuvent pas travailler autrement.
Puis on apprend dans le film, par exemple, que le salaire moyen d'un instituteur, c'est de 50 yuan, et que le salaire d'un mineur, c'est 4000 yuan. 80 fois plus, alors évidemment, on comprend cette motivation. Dans ce film, les mineurs, on apprend aussi qu'il y a en Chine des mines qui sont légales et d'autres qui sont illégales, en marge de la loi. Alors est-ce que ça signifie qu'une partie de l'industrie chinoise, pas uniquement les mines, hein, qu'une partie de l'industrie chinoise est complètement en marge de la loi et des règlements ?
关于在中国有那个特别多的，就是合法的矿井和非法的矿井，那么这一些关于非法的矿井，是不是建立在法律的那种限制之外呢？是的，觉得就是它除了国有的煤矿，就是处于国家特别安全有效这方面管理还是可以的，就是还有一部分就是建立在法律之外的，其实国家也是严厉禁止的，但是他们做作原因吧。
Bien évidemment, il y a toujours des mines illégales qui existent en Chine. Bien sûr, c'est pour gagner de l'argent, ils sont hors de la loi et c'est pour ça qu'il y a de l'argent qui est gagné dessus. Et c'est un peu déporté de la loi, mais même le gouvernement essayait de bien contrôler, mais jusqu'à maintenant, n'est pas encore. N'est pas encore réglé.
Dans ce film, on voit à côté des plans et des témoignages des mineurs une image où l'on voit les villes très, très modernes. Je pense que c'est Shanghai, mais je ne suis pas sûr. Enfin, en tout cas, ces villes extrêmement modernes, très bien éclairées et qui témoignent de la formidable croissance économique de la Chine. Et est-ce qu'on peut demander à Bai Boudan si, selon lui, la croissance économique chinoise va améliorer les conditions des ouvriers ou au contraire risquer de les faire empirer, de les rendre encore plus difficiles ?
我们在最后的时候看到有关于上海的一部分景象，我们看到这么漂亮的城市，那么整个灯火辉煌。但是你，我想提问一下，就是关于你所认为中国的经济这么飞速的成长，是会带给这些工人他们的生活的境遇的一种飞速的提高呢，还是带来一种相反的效果呢？这个我觉得现在还不好说，因为一切都是看将来以后整个的趋势的发展的情况来定。
En fait, il a dit, je ne sais pas comment dire tout ça. La Chine, c'est une société en train de bouger. Et on passe une économie, une moderne économique, qui a une croissance énorme. Mais je ne sais pas, est-ce que ça pourrait améliorer les conditions des ouvriers? Et ça dépend les stratégies du gouvernement qui nous ramènent. Enfin, on verra bien.
Espérons en tout cas que ces mineurs puissent trouver de meilleures conditions de vie et de travail. Les mineurs de Bai Boudan, un film qui était projeté au film hier jeudi 8 juillet et aujourd'hui 9 juillet à 14h30. Donc au moment où cette émission sera diffusée, on n'aura plus l'occasion de le voir, mais on espère avoir l'occasion de le revoir bientôt et on espère notamment que ce film soit distribué en Europe et ailleurs. Merci beaucoup à Bai Boudan et à son traducteur Chen Yang. Chéché.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. On va faire une petite pause musicale maintenant en compagnie de Guillaume. Une impro au sax basée sur ce qu'il a ressenti à la vue d'un film de la programmation du FID. Bonjour Guillaume.
Alors bonjour. Aujourd'hui, je vais parler donc du film Julien, réalisé par Gaël Lépingle. Donc en fait, ce film, j'ai voulu le traiter parce qu'il m'a totalement bluffé au niveau sonore. Le son est plein de propositions esthétiques. Ces propositions sont très réussies. Mais encore plus que le son, c'est la musique le traitement musical qui m'a vraiment bluffé. On oppose musique dite classique et musique de boîte. C'est très très bien fait. C'est des genres qui n'ont aucun rapport entre eux, mais qui se mêlent ici avec une aisance toute particulière. Ils participent au rythme du docu et au pathos des personnages. Donc je vous propose un petit délire autour d'une citation d'une suite de Rameau pour hautbois, qui a été transposée pour sax il y a quelques années. J'ai pris beaucoup de plaisir à triper sur cette création. J'espère qu'elle vous amusera autant que moi. C'est vraiment de l'amusement. Voilà.
Ben, tant qu'à faire, c'est un plaisir de s'amuser. Parfois, on n'est pas là non plus dans ce plateau consacré au travail pour se déplorer. On va au contraire avoir beaucoup de plaisir à t'écouter dans quelques secondes, le temps que tu rejoignes le micro. Et quand tu veux, Guillaume. Merci beaucoup à Guillaume pour ce joyeux mélange de Jean-Philippe Rameau et de la techno, vraiment très réussi. On va dans quelques instants découvrir un autre film tiré de la sélection du FID. Il s'agit de Plaza Machine, Le Travail des Machines, un film de Gilles Leport, et des frères Madraki. Et peut-être pour commencer, pour entendre comment le film était perçu par les spectateurs, on écoute tout de suite un micro-trottoir enregistré par Juliette. Bonjour Juliette.
Bonjour Xavier.
C'était à l'occasion de quelle séance ?
C'était la première séance, c'était jeudi. C'était dans l'après-midi, non, le matin à 11h. L'après-midi, je ne sais plus. J'en ai vu tellement, mais c'était le premier jour, la première séance. Donc du coup, les premières réactions des spectateurs. Donc je vous laisse écouter directement, pas trop en parler.
J'ai été dérouté, j'ai pas grand-chose à vous dire à son sujet.
Au début, un petit peu trop pour moi. paralysé, on a l'impression que c'est... Mais après, c'est assez touchant. On commence à... Moi, je ne savais rien sur le film, absolument rien. On comprend que c'est le même environnement, en fait. Tout se passe dans le même environnement, autour d'une usine, avec la chorale d'une usine qui est assez... C'était un moment assez étonnant, et après, la fin et la dernière séquence est assez magnifique. Mais ça reste un film qui ne m'a pas surpris.
J'ai admiré l'intention du réalisateur de se tracasser, de voir, de pénétrer dans le monde du travail, dans le rapport de l'homme, de l'être humain avec la machine, mais en même temps de revenir à des acquis qu'avait une société représentée pour ce vieux monsieur retraité qui parle plein de joie de la vie qu'il y avait dans l'usine antérieurement. Et aussi, ça m'intéressait beaucoup, les rapports entre l'art, sur la danse et l'usine.
J'ai beaucoup aimé sur le premier film, c'est Le Temps des Machines.
Oui.
J'ai beaucoup aimé le fait que la fascination, comment on montre que la fascination des hommes pour les machines, et je trouve qu'ils apportent aussi un pendant cinématographique à cette question en faisant des très longs travelling, parce que le travelling c'est quoi, c'est les machinistes, c'est aussi quelque part les machines, c'est pas la machine de prise de vue mais c'est les machines, et voilà, ils font des travelling magnifiques et ça en devient aussi fascinant.
On écoutait un micro-trottoir enregistré par Juliette. En sortie de salle, des spectateurs avaient vu le travail des machines. Alors évidemment, des points de vue contrastés, comme c'est toujours le cas. Un commentaire, peut-être, à propos de ces réactions de spectateurs. Gilles Leport.
Bonjour. Merci. Donc, je pense que ce film, d'autant plus, il peut avoir des commentaires contrastés, car il est très librement édité. Donc pendant la première partie du film, c'est des séquences qui s'enchaînent. Il est difficile de comprendre exactement vers où on va. Donc le spectateur est très libre. Il peut sentir vraiment une tension qui est différente tout au long du film. Et je pense que la première partie est très déstabilisante quelque part et peut être compris comme le spectateur a dit, comme quelque chose de très un peu stressant, on va dire.
Le travail des machines, peut-être pour situer un petit peu de quoi il est question, c'est un film qui nous emmène en Pologne, dans l'est de la Pologne, dans une petite ville industrielle où se trouvait une usine qui fabriquait des avions. Et le film commence dans un centre commercial avec un manège pour enfants et bien sûr un avion, avion planeur, on les retrouve d'ailleurs sous toutes leurs formes tout au long de ce film. Mais je voudrais tout de suite avec vous évoquer la qualité du son dans ce film. Est-ce que vous avez particulièrement travaillé la bande-son ?
On avait la volonté de rester au plus brut, quand même de rester avec les sons qu'on avait enregistrés sur le set. Mais quelquefois c'était impossible, donc on a dû travailler en studio après à reconstruire des parties du film. Et pour ça, on est retourné sur place et on a samplé les différents sons des différentes places qu'on avait filmées.
Alors, on évoque dans ce film la vie sociale des ouvriers, du temps où la Pologne était derrière le rideau de fer, bien sûr. Tout appartenait à l'usine, les maisons, les clubs de jeunes, les clubs de vieux. On a l'impression d'ailleurs que ces vieux, ils sont un petit peu nostalgiques de cette époque. Peut-être on peut demander à Maciek et à Michal sur cette question de ce qu'on appelle en Allemagne de l'Est l'ostalgie, la nostalgie de l'Est. Michal, oui, ça marche.
Ça marche, ok. Bon, en fait, cette nostalgie que vous avez dit, on a vécu, car Michal et moi, on est nés à Mielec, on a vécu là pendant 15 ans. Alors, en fait, on voulait pas vraiment concentré sur cette nostalgie, mais en fait, cette nostalgie, ça existe. C'est plutôt, on a travaillé sur les mémoires des gens, des souvenirs de ce temps-là, de cette époque d'or. Car, en fait, c'est ce que nous a pris quand on a vécu là, quand on a habité là. C'était que tous les gens vivaient avec ce mythe de l'usine. Même si, même ça touchait la génération qui pouvaient pas le toucher, c'est-à-dire qu'ils ont été nés après la transformation de 89. Alors ça, c'était vraiment bizarre hein, que ce mythe, cette légende de l'usine de ce temps-là, de 60, car c'est lié aussi avec les grands succès, par exemple, de sport, là, car l'équipe de Mielec a même joué avec Real Madrid pendant ce temps-là. Alors,
on a. Merci, Maciek. On a eu l'impression que dans ce lieu, dans cette petite ville, dans cette usine, aujourd'hui, le travail a un petit peu disparu. Enfin, c'est l'impression peut-être que donne le film. Alors, sans du tout pontifier sur ce sujet ou l'aborder de front, ce film, Le Travail des Machines, c'est aussi un regard finalement doux amer, ironique, mais aussi un peu insistant sur les mutations économiques en Pologne et plus globalement dans les pays de l'Est.
Gilles Lepin. Oui, je pense que on a voulu pas forcément se concentrer sur l'idéologie politique qui, de ce temps, du communisme, mais on a vu aussi un parallèle avec donc moi je viens pas de la Pologne mais de la Suisse, j'ai vu un parallèle avec toutes les agglomérations qui sont construites en relation avec une industrie, donc c'est ça qui nous a plus intéressé. Et on voit que au départ, on était parti là en se disant ben, tiens, c'est resté comme à la belle époque, tout semble ressembler à une maquette parfaite pour organiser les gens pour aller travailler de leur bloc et d'avoir une vie, on va dire, plus ou moins paisible. Et voilà, après ça, quand ce temps est passé, on va dire, vu qu'il y a eu un changement de régime, on voulait voir si les gens avaient eu une réflexion aussi, quelque part, sur ce temps qui est passé. Et on a remarqué que si on arriverait là-bas en disant « Ok, on va faire une nouvelle usine, on va relancer l'économie », ben tout le monde serait d'accord de repartir dans cette direction.
Alors, qui dit ville industrielle ? Ah pardon, Maciek. Michel, pardon. Michel.
Peut-être je parle polonais, après Maciek le traduit, parce que c'est difficile pour moi, comme ça tout. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że ta fabryka jest jakby wieczna, bo powstała w momencie, tuż przed wojną, gdy wyprodukowali pierwszy samolot, zaczęła się wojna i to wszystko jakby się rozleciało, to marzenie o tej wielkiej produkcji. Po wojnie jednak nadal w ludziach żyło to pragnienie produkowania i zaczęli sadzić tam kartofle, mieszkali na tym zakładzie i od widelca po samolot jakby wskrzesili to. Jakby tym momentem szczytowym był komunizm, gdzie też sentyment się bierze stąd, że ci ludzie byli młodzi, po wojnie, pełni energii i tworzyli jakby swój nowy świat. A w tym momencie jakby później komunizm upada, ta fabryka upada, gdzie pracowało 20 tysięcy ludzi, nikt nie ma pracy, jakby tragedia. Ale w tym momencie znowu to żyje. W tym momencie żyje to, tylko jest bardziej rozczłonkowane. To nie jest już jedna jakby fabryka, ale wciąż ta sama i nadal produkująca samoloty, bo Amerykanie kupili tą fabrykę i teraz oni robią helikoptery.
Maciek, okay. Ça vous fait un sacré morceau à traduire.
Ok, il s'occupe de lettres, lui, de moi, donc. Bon, j'espère que j'ai tout dans ma tête. Alors, il commençait par dire que cette usine, en fait, c'est un peu éternelle. Ça veut dire que dès le début avant la guerre, car l'usine était construite en 1938, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais puis, après la guerre, car l'usine était préservée par les Allemands, bien sûr, ils ont fait ce truc-là. Alors après la guerre, c'était le début du grand rêve de cette fabrique. Il y avait cette idée d'industrialiser les environnements, les endroits, les régions polonaises qui étaient plutôt agriculture. Alors ils ont commencé à partir de fourchettes jusqu'à l'avion, ils commençaient à construire toutes les choses à partir de vivre ce rêve de la machine. Ok, il a dit plus, je ne sais pas si on a du temps pour que je puisse traduire tout.
Je t'en prie.
Bref, Maintenant aussi, sa vie. Mais de l'autre façon, c'est plutôt divisant plusieurs parties de la ville. C'est avec ce changement de 89, maintenant ça s'est transformé, mais c'est encore vivant.
Alors merci beaucoup à tous les deux, Maciek et Michel Madraki. Qui dit ville industrielle dit club de foot, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, et les supporters ont d'ailleurs une espèce de danse assez drôle dans les tribunes. Et alors à propos de danse, évidemment le clou du film, c'est la danse des machines, une chorégraphie assez incroyable. Peut-être, est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de cette danse des machines, Gilles Leport?
Oui. Alors cette danse, on l'a découverte dans un livre qui célébrait les 30 ans de la fabrique. Car dans cette ville en particulier, il y avait c'était une fabrique aéronautique, ce qui donnait aussi une autre dimension à l'idée d'industrie, de production de d'objets, car il y avait cette dimension un petit peu de liberté, on va dire, de pouvoir s'envoler avec un objet. Et donc en 1968, il y a un chorégraphe qui s'est rendu là pour faire une chorégraphie sur ce thème-là, donc la relation entre l'homme et la machine, et en particulier sur les avions. Et donc c'était une danse futuriste qui a été montée à cette époque, et qui, par le groupe de danse officiel, on va dire, de la fabrique, qui étaient eux-mêmes des ouvriers. Mais c'était des ouvriers fictifs, car ils étaient aussi genre soudeurs ou mécaniciens, etc. Mais ils allaient juste à la fabrique, on va dire, pour timbrer, et après ils allaient s'entraîner dans les salles de danse. Et normalement, ils performaient des danses folkloriques. Et là, tout d'un coup, il devait faire cette danse qui sortait un peu de nulle part et qui était totalement avant-gardiste pour cette époque. Et donc, cette danse, quand ils l'ont dansée, c'était chaque fois un peu des réactions très mitigées par rapport à ce que les gens voyaient. Car les ouvriers, en général, ce qu'ils nous ont dit, OK, ils voyaient qu'ils mimaient leur travail, donc... C'était pas si intéressant que ça à voir. Et ils ont aussi dansé ça dans plusieurs festivals à l'étranger. Et ils étaient perçus un peu comme des aliens. Et pendant un festival en Hongrie, le directeur de ce festival, après leur performance, est venu vers eux et les a disqualifiés en disant qu'ils sabotaient le festival. Donc la danse n'a été que jouée... quelques fois, qu'à de rares occasions.
Et alors, comment est-ce que vous l'avez retrouvée aujourd'hui? Comment est-ce que vous la faites réinterpréter?
Donc, c'est par la mémoire des danseurs de l'époque qu'on a retrouvé. Puis au début, on avait l'ambition de refaire la danse avec eux, mais c'était un peu trop tard. On a eu quelques problèmes.
Parce qu'ils étaient un petit peu âgés.
Oui, exactement. Et leur physionomie aussi a bien changé pour certains. Et donc, vu que cette compagnie de danse existe encore actuellement, mais qu'elle est beaucoup moins performante, on va dire, vu que c'est plus ce niveau semi-professionnel, c'est plus pour continuer la tradition. Donc on a pris les jeunes qui participent à cette compagnie pour recréer cette danse, pour les entraîner.
Le travail des... Ah, pardon, Maciek voulait intervenir sur cette danse des machines.
Je voulais juste ajouter trois mots. Okay, c'est ce que Gilles n'a pas dit. Ça veut dire que le début, c'était après avoir vu cette photo et court inscription à propos de ces danses, on s'est mis à l'enquête. C'est-à-dire, Michao et Gilles, ils sont allés à Mielez et ils ont trouvé dans des archives à la Maison de la Culture, ils ont trouvé la partition, l'enregistrement de la musique originale et quelques trois ou quatre costumes de danse de l'époque, mais ils étaient transformés à la mode contemporaine. Ça veut dire ils ont mis les ailes avec.
Ils ont transformé pour d'autres performances qui étaient plutôt pour des danses d'enfants ou des choses comme ça. Donc ils ont rajouté des éléments dessus et les costumes sont devenus totalement kitsch.
Ce qui est dommage, parce qu'effectivement, c'est une danse futuriste et elle est assez drôle, mais en même temps, elle n'est pas kitsch du tout. Et effectivement, c'était une sorte de regard sur le travail au corps. Le travail des machines, c'est un film de Gilles Leport, Michal et Maciek Madraki, et il est projeté ce soir, vendredi 9 juillet à 21h30 au cinéma des Variétés. Merci à tous les trois d'être passés sur ce FeedMag. On va rencontrer dans un instant Jérémy Gravaya pour son film Les Hommes Debout, mais tout de suite une chronique autour du film Tres Semanas Después, vu par Pierre. Salut Pierre.
Salut Xavier.
Un film chilien.
Un film chilien, voilà, qui revient sur les zones sinistrées suite au séisme qui a eu lieu en début d'année. Donc c'était le 27 février dernier, il y a un puissant séisme, donc comme j'ai dit, qui a secoué une partie des côtes du Chili. 500 personnes sont mortes et plus de 500 000 bâtiments ont été touchés. Donc comme l'indique le titre, c'est trois semaines plus tard que José Luis Torres Leiva revient sur les zones sinistrées pour tourner ce documentaire. On le suit dans cette visite d'un pays qui apparaît comme dévasté. Il y a beaucoup de plans fixes qui s'enchaînent et ces plans montrent des montagnes de gravats. C'est un peu un état des lieux de ces zones quelques jours après le drame. Donc on constate par ces images que cette partie du pays, donc ces côtes qui ont, cette partie de la côte qui a été touchée est quasiment devenue inhabitable. Mais le réalisateur ne semble pas fasciné par cette horreur qui pointe. J'ai l'impression plutôt que dans ses prises de vue, il essaie de percer une esthétique qui pointe dans ce chaos. Donc on imagine qu'elle a pu être la violence du séisme, mais c'est pourtant une certaine douceur qui se dégage du film. En particulier dans une séquence où s'enchaînent des plans qui montrent des visages d'habitants des zones sinistrées. On lit beaucoup de tristesse, beaucoup de résignation, mais on sent que c'est l'espoir que cherche à y capter le réalisateur. Donc il y a également une autre idée qui se dégage du film, selon moi, c'est que pour faire le deuil de ce drame, il faut pour les habitants reconstruire. Mais pour reconstruire, il faut avant tout finir la destruction. Il y a des murs qui sont restés debout et il faut brûler les charpentes des maisons écroulées pour finir de déconstruire, pour reconstruire ensuite par-dessus. Donc on sent que ce travail sera long, éprouvant, difficile. Et je pense que cette idée est illustrée notamment en particulier dans un plan, un travelling où on voit l'ampleur de la tâche et on aperçoit furtivement un homme au milieu des gravats. Il les contemple. Et il a les mains sur les hanches et il semble se demander mais par où commencer. Donc je pense qu'au-delà de l'observation, on est ici dans ce film dans une lente lamentation. Et je pense que finalement tout le film semble être résumé dans le premier plan où on voit l'océan. En fait, les vagues déferlent sur la plage et elles sont à la fois destructrices et porteuses d'une énergie vitale.
Tres semanas después, trois semaines après, un film de José Luis Torres Leiva. Est-ce qu'on peut encore le voir sur les écrans du FID, Pierre ?
Oui, on peut le voir ce soir dans la salle 2 du Variété. Il est en compétition internationale.
Merci Pierre. Troisième mi-temps, si je peux dire, de cette émission. Autour du film de Jérémy Gravaya, Les Hommes Debout, on a pu entendre hier la chronique du dernier plan de ce film, mais un film qui mérite vraiment qu'on n'en reste pas là et qu'on explore aujourd'hui son entièreté. Il a évidemment toute sa place dans ce regard aujourd'hui sur le cinéma et le travail, l'articulation entre le cinéma et le travail. Les Hommes Debout, on pourrait dire que c'est un panoramique sur 50 ans d'histoire de l'exploitation des travailleurs immigrés, qui commence par des souvenirs des colonies. On retrouve la mine, évoquée tout à l'heure avec Baïboudan, mais cette fois-ci c'est en Tunisie, où la compagnie Penaroya est implantée. Mais dans les années 60, c'est en France que les ouvriers sont invités si l'on peut dire, a émigré dans une usine métallurgique de la banlieue lyonnaise, toujours tenue par cette même compagnie Penaroya. À l'image, un glissement subtil, parfois difficile d'ailleurs à identifier, entre image d'époque et image actuelle, une vraie virtuosité dans le montage. Comment est-ce que vous avez travaillé l'image, la prise de vue de la première partie du film en noir et blanc et son montage, Jérémy Gravaya?
Donc la première partie... C'est bon, ouais. La première partie a été tournée en Super 8. À partir du moment où j'ai su en fait que j'allais utiliser les images d'archives qui composent un tiers, disons, de cette première partie, qui sont des images tournées en 16 mm, noir et blanc, dans les mêmes endroits que les plans que j'ai tournés aujourd'hui. Et pour Le choix du Super 8 s'est imposé un peu pour deux raisons, mais évidemment la première, c'était qu'il puisse se passer ces possibilités de mélange et de circulation et d'ambiguïté au moment du montage, bien que je ne savais pas du tout comment les choses allaient s'articuler au montage. Tout ce que je savais, c'est que j'avais vu les images d'archives, je connaissais...
Combien d'elles, d'ailleurs, ces images d'archives? Où est-ce que vous les avez collectées?
Les images viennent en partie de Rush, qui avait été écarté, disons, d'un film qui lui a été terminé. Donc il y a un peu d'éléments qui viennent de ce film terminé et d'autres qui viennent de Chute du film. Et ce film a été réalisé par un groupe de militants qui s'appelait les Cahiers de Mai, qui était au départ basé notamment à Paris, mais un peu partout en France, et qui sont venus aider les ouvriers de cette usine à s'organiser pour créer leur syndicat et mener une grève pour obtenir de meilleures conditions de travail, de logement. Et le film a été conçu à l'époque comme un outil de soutien, tout comme on écrirait un tract.
Je parlais tout à l'heure des groupes Medvedkin, c'est un petit peu dans cet esprit que finalement ces éléments d'archives ont été tournés.
Oui, quasiment, c'est-à-dire que les ouvriers ont été quand même relativement mêlés à la réalisation du film. On voit dans le film à un moment d'ailleurs un plan où on voit le Dominique Dubosc, donc qui le réalisateur, disons la personne qui était le plus au centre de la réalisation de ce film. On le voit entourer tous les ouvriers derrière lui, il est devant une table de montage 16 mm. Donc voilà, ça a été réalisé de façon assez partagée. Et après, par rapport au groupe Medvedkin ou à d'autres groupes de l'époque, c'est quand même assez particulier puisque c'est vraiment... Ces films-là ont été faits pour un but très précis, un moment très précis, pour une intervention très précise. Et par exemple, ils n'ont jamais absolument eu de vocation à être montrés comme objet cinématographique en tant que tel. C'était vraiment parce qu'à l'époque, ils se disaient, bon, si on veut populariser cette grève, si on veut pouvoir recueillir des fonds pour aider les ouvriers au jour le jour à tenir pendant la grève, les tracts, c'est bien, mais il faudrait qu'on puisse montrer ça différemment et faire passer leurs paroles et leurs motivations différemment. Donc, faisons un film.
Voilà. Dans ce film, face à la dureté des conditions de travail, la solidarité... celle d'autrefois évoquée, celle des copains, et puis celle d'aujourd'hui encore. On voit d'ailleurs les anciens qui continuent la lutte. Par exemple, quand un Blanc-Bec, fils de chef, devient chef, à la place de celui qui serait compétent pour effectivement effectuer ce travail, il y a comme une sorte de transmission. Je vous posais tout à l'heure la question à propos des groupes Medvedkin ou de Carpita, de Marker. Comment est-ce que vous, Jérémy Gravaillat, vous situez dans cette filiation? C'est des grands anciens, c'est des références, ça ne vous concerne pas du tout?
Il y en a un certain nombre que je connais de nom, mais dont je n'ai pas vu les films dans la liste que vous citez. Et Marker, je connais plus son travail, disons, une période qui sont des travaux plus purement cinématographiques que la période militante. Après, personnellement et par rapport au film, Dominique Dubosc, qui était, disons, l'opérateur technicien cinématographique au sein de ce groupe, et la personne qui m'a formé au cinéma. Donc, c'est-à-dire que finalement, moi j'ai fait un BTS, audiovisuel, et j'ai finalement appris le cinéma, pas tellement là-bas, mais plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai rencontré ce monsieur complètement par hasard, je l'ai assisté au début comme stagiaire, et pendant 6 ans j'ai travaillé avec lui. Et lui avait traversé tout ça, quoi, toute cette époque, et sûrement qu'il en a transmis quelque chose. Moi, tous les films que j'ai faits depuis 10 ans, des courts-métrages avant, sont tous sur ces questions de migration, d'exil, de statut des travailleurs sans papier en France. J'ai fait des choses à Sangatte, notamment. Voilà.
On continue dans quelques instants de parler de ce beau film, Les Hommes Debout, mais en attendant une chronique de Célia. Célia, je crois que tu es allée faire un tour du côté d'un écran qui s'intitule Les Sentiers.
Oui. Alors, Les Sentiers, c'est un des écrans parallèles, en fait. Et sa particularité, c'est d'être une programmation tout public dès 6 ans. Et c'est Photokino, l'asso qui s'occupe de cet écran. Et à Photokino, en fait, ce qui les intéresse, c'est plutôt les sentiers escarpés, tous les chemins de traverse. Et ils sont très forts justement pour dénicher des petites pépites, des films rares, des inédits. Sur cette chronique, ce qu'on va entendre, donc c'est un aperçu d'une de ces séances qui repasse cet après-midi justement à 15h45 à l'Alcazar. Et c'est une séance de 5 films courts avec, alors, entre autres, en vrac, des concerts de poubelles, des engins volants post-soviétiques et surréalistes, du décalage, de la belgitude. Bref, un beau petit programme, et vous allez entendre parler tout de suite de ce programme-là par les spectateurs eux-mêmes.
Donc on va faire une séance tout public entre adultes. Ah, un enfant, deux. Parfait, ça va. C'est bon, on est sauvés.
C'était une séance où on... très agréable à regarder. Et chaque film avait son charme, je trouvais. Et on se pose pas la question si c'est du documentaire ou de la fiction. Puis même comme choix de général de programmation de 5 films, il y avait des tonalités différentes mais qui s'associaient vachement bien. Moi j'ai préféré Dreams. Non, c'est pas ça. Ah ouais, Passing. C'est un travelling sur le mode de la lanterne magique, où on voit des paysages qui défilent découpés dans du papier, où c'est très bien animé. Donc j'ai aussi beaucoup aimé Plastic and Glass. Ça se passe dans une déchetterie et au début c'est que c'est que des images où il n'y a pas d'humain, on voit que des déchets qui se transforment, et j'aime beaucoup tout cet univers-là de mécanisation des déchets et tout. C'est très plastique, et puis ça tourne doucement vers un film choral, je dirais, où les gens chantent. En fait, je savais pas trop ce que j'allais voir, donc la bonne nouvelle est là, c'est toujours un peu le hasard. Le dernier film m'a beaucoup plu. Ça m'a fait penser à une version un peu moderne de Jeanne Dielman, je sais pas si vous connaissez. Enfin, un film de Chantal Akerman, revisité, on va dire, en animation.
Je recommence. La madame, le monsieur, il faut quand même qu'il y ait quelques personnes pour que ce soit réaliste.
Chaque fois, il tombe, hein.
Ce dernier film, c'est en fait, ça s'appelle Trickland, et ce qui veut dire trick, c'est quand on, en anglais, ça veut dire quand on déjoue ou quand on fait croire que. Hein, donc c'est le pays plutôt que Wonderland, ou c'est Trickland. Donc c'est effectivement faire croire à la réalité. On sait en fait que des maquettes. Donc c'est un couple qui crée des maquettes miniatures de leur vie. Donc il y a des moments où on ne sait pas si effectivement il s'agit de leur vie, ou s'il s'agit des miniatures elles-mêmes. Donc c'est tout un espèce de jeu, effectivement, sur la réalité et la fiction, enfin, en tous les cas, ou la maquette. Et puis, on a l'impression que ce couple se prend à ce jeu-là, en fait, et que, donc, il y a ce mélange entre leur vie qui devient cette maquette, plus ou moins, ou qui devient partie intégrante de cette maquette. Et puis voilà, la mort arrive et un des personnages tombe.
Ah ben, une belle couleur pour mettre sur un vêtement.
Oui, qu'est-ce que tu en penses?
C'est très joli.
C'était une chronique de Célia Pascoe autour de la programmation de l'écran Les Sentiers, toute une programmation donc destinée à un très large public que vous pouvez retrouver sur le site du Festival international du documentaire www.filmmarseille.org. On revient sur Les Hommes debout, le film de Jérémy Gravaya, avec un très beau plan de manifestation monté très très cut, et puis ensuite une rupture dans le déroulement du film, le titre qui apparaît presque à la moitié ou aux deux tiers du film, comme une sorte de recommencement, et puis des images en couleur. une bascule après ces glissements entre l'hier et l'aujourd'hui. Et puis, après cette bascule, ce passage dans la couleur, aujourd'hui, les mêmes usines, mais désertes, ruinées, squattées, l'industrie est partie, le boulot aussi. Et le comble, c'est que maintenant, on expulse les squatteurs au motif que le lieu est pollué. C'est-à-dire que c'est quand même très fort, parce que pendant 50 ans, on y a fait bosser des gens, et respirer du plomb et autres joyeusetés, et maintenant, on évacue les Roumains au motif qu'ils risqueraient d'être victimes de cette pollution. Jérémy Gravaya, c'est quand même d'une hypocrisie assez incroyable, ça.
Oui, bah surtout que cet endroit est assez curieux, cette partie du terrain dit polluée, parce que, comment dire, le périmètre de l'usine est très marqué, disons, parce qu'il y a des rues qui marquent les angles. Et à cet endroit-là où l'usine a été démolie, de l'autre côté de la rue, on a un terrain de gens du voyage, donc pas des Roms, hein, des gens du voyage, qui eux ont tout à fait le droit de rester là. Et de l'autre côté de la rue encore, on a un jardin ouvrier où les gens font pousser leurs légumes depuis le début du siècle. Et là aussi, c'est très bien. Donc ça s'arrête vraiment au bord de la route, quoi. Là c'est très, très, très dangereux. Et puis de l'autre côté, on peut manger ses patates. Et voilà, par exemple.
On voit bien que ces motivations, elles tiennent surtout de la spéculation. Hein. Il est probable que ces sites industriels, un jour, deviennent de magnifiques résidences ou lofts, peut-être pour une nouvelle population renouvelée dans ces quartiers. Alors, Jérémy Gravaya, votre film était projeté en ouverture du festival et puis hier, donc je ne peux pas indiquer de nouvelles projections. Il faudra attendre pour le revoir. J'espère que le FID le diffusera tout au long de l'année dans les séances qu'il propose. Mais Jérémy, demain, pour vous, c'est quoi? Il y a un film qui est en cours en ce moment, en travail?
Oui, c'est pas tellement un documentaire, c'est une base de travail documentaire à partir de beaucoup de choses observées sur les différents tournages justement documentaires que j'ai fait depuis 2000 et qui part parce que je trouve qu'on en parle peut-être trop ou pas assez bien ou pas de la bonne manière, de la jungle à Calais, qui part d'un groupe de gens qui décident de rester dans une forêt et de plus essayer de rien faire, ni rentrer chez eux, ni essayer d'aller en Angleterre, ni nulle part, mais juste de vivre à quelques-uns dans une forêt, voilà.
On l'attend avec impatience, peut-être au FID l'an prochain ou plus tard, et en tout cas sur ce plateau pour en parler très volontiers. Merci Jérémy Gravaya. À l'impossible, nous sommes tenus. Car on écoute pour terminer ce magazine la chronique du film Impossible de Pascal, avec Anne Barbet, qu'on recevait hier sur ce plateau, je crois, Pascal.
Absolument, t'as tout dit.
Et bien alors on l'écoute.
Alors, j'ai entendu dans votre précédente chronique que vous cherchiez à savoir le film que par exemple j'aurais voulu faire mais que je n'ai pas pu faire. Ou que... Moi j'ai plutôt envie de parler d'un rêve, c'est-à-dire d'un film dont je rêverais. Je pense, comme tous les rêves, il est probablement impossible, mais on ne sait jamais. Donc c'est une chose que moi j'adorerais faire, parce qu'il y a un genre au cinéma que j'adore, c'est la comédie musicale. Et j'aimerais faire un film, une comédie musicale sur La Belle au bois dormant. Voilà, alors ça c'est quelque chose qui m'enchanterait. J'imagine très très bien même certaines images. Je vois surtout le moment où la sorcière prédit à La Belle au bois dormant qu'elle va s'endormir, enfin qu'elle va mourir si elle touche cette quenouille, cette aiguille, et que la bonne fée corrige et l'endort simplement pour 100 ans. Donc ça c'est un moment que j'imagine très bien. J'imagine très très bien aussi un moment assez long où tous les personnages du château s'endorment. J'imagine même une comédienne pour faire la sorcière qui serait Lio. Vous voyez, j'ai déjà des plans, tout écrit, mais peut-être que c'est le film impossible parce que j'essayerai même pas de le faire. Il faut que ça reste un rêve et que ça reste... Mais c'est vrai que l'idée de comédie musicale, avec des danses, avec des chansons, il faudrait que je trouve le bon partenaire, le musicien et auteur-interprète qui ferait une bande son spécialement pour le film. Et ça m'enchanterait. Et en plus, ça paraît évidemment impossible et inaccessible parce qu'il faut une énorme machinerie. Il faudrait presque être à Hollywood pour pouvoir faire ce genre de film. Et moi, je fais des documentaires. J'ai fait un court-métrage de fiction, mais qui n'avait aucune, ni chanter, ni danser. Mais c'est un genre, je trouve, qui a disparu, peut-être pour la difficulté de produire et parce que c'est très lourd. Mais je trouve ça dommage, parce que je trouve que dans la comédie musicale, on peut faire passer énormément d'émotions. Et j'aime bien les contes, parce que je trouve que... Voilà, c'est à la fois... C'est toujours les épreuves de la vie, on peut les... Évidemment, ça serait pas forcément un film en costume. Ça pourrait être plutôt contemporain, ou dans aucune époque. Mais j'aime bien l'idée du conte. J'en lisais énormément quand j'étais enfant. Et ça reste... Ça reste un rêve. Alors, impossible. L'avenir le dira. On sait jamais. Si un producteur m'entend, on sait jamais.
C'était le film Impossible d'Anne Barbet par Pascal. Beau travail. Avant que ce magazine s'achève, je voudrais en deux mots rappeler que cette émission, notre radio, le festival qui nous accueille, l'ensemble des manifestations culturelles qui rendent votre été si agréable, sont aujourd'hui plus fragiles que jamais. De nouvelles suppressions de crédits, de nouvelles suppressions d'aide à l'emploi dans les associations, de nouvelles érosions de nos capacités de production se dessinent, avec comme prétexte la crise qu'il faudrait étaler. Cette crise, objet de toutes les spéculations, ne justifie en rien l'abdication d'une politique culturelle, ni la relégation de ceux qui lui donnent vie jour après jour, et qui donnent vie à la création artistique sous toutes ses formes dans ce pays. Jeudi 15 juillet, une manifestation aura lieu à 14h30 dans la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon, pendant le festival. Il serait souhaitable que ce mouvement s'amplifie, et nous comptons sur vous pour le soutenir. Cet été, dans tous les festivals, que des voix s'élèvent, que des actions prennent forme pour rappeler qu'on ne veut, qu'on ne peut pas vivre dans un pays privé de pensée. Merci à tous sur ce plateau, chroniqueurs et invités, ainsi qu'à Tony Regnault, réalisateur de cette émission. Rendez-vous demain à 18h pour le prochain FID Mag avec un focus sur le cinéma sud-américain dans la programmation du FID. D'ici là, restez calés sur les 3-8 ou bien réécoutez nos magazines et chroniques sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org.
Les tristes cires qui barbotent ensemble des pauvres.
Ciao a tutti, ciao ai nostri telespettatori, questa sera noi ci vediamo lassù in alto, quindi ogni tanto potranno guardare in alto.
Siamo in cielo.
La volonté du peuple. Avec cela, qu'on s'en soucie de la volonté du peuple. Quelque chose comme le mugissement d'un bœuf.
Your mom said there was a plane driving over. Yes. Flying over in this. Needs a note.